Jean Giraudoux, d'un cheveu. Je sortais des bras de Madame Sherlock Holmes quand je tombais, voilà bien ma veine, sur son époux. « Eh, bonjour !» fit l'éminent détective. « Bon, on dîne avec moi ? Voilà des siècles qu'on ne vous a vu. » Quelque chose de mon émotion transparut sur mon visage. Et Sherlock Holmes sourit finement. « Oui, je vois ce que c'est, » dit-il. « Monsieur va chez une amie. » Si je disais non, j'avais l'air de faire des mystères. Et si je disais oui, j'avais l'air de vouloir l'éviter. Je répondis donc, avec un peu de précipitation, que l'ami en question pouvait parfaitement attendre, et que si je n'arrivais pas à 8 heures, bien ce serait à 9, et que d'ailleurs, si elle n'était pas contente, je ne rentrerais pas du tout. Sherlock, pour toute réponse, mit les mains sur mes épaules, me fixa et dit « Allez, ne babouillez pas, mon cher, je vous ai tendu un piège. Vous sortez d'un rendez-vous. » Un frisson parcourut mon corps et sortit par mes cheveux qui se dressèrent. Par bonheur, il ajouta « Mais les trêves de plaisanterie, allons au restaurant. Désolé de ne pas vous avoir emmené chez moi, mais on ne m'y attend pas. La bonne a son jour. » Oh, je me crus sauvé. Mon ami était bien là, sur son potage à rêver. Mais je mettais ses rêveries sur le compte de quelques professionnels du vol à tir ou du vagabondage spécial. Soudain, d'un pied, il cogna légèrement ma cheville. « Voilà la preuve !» fit-il. Oh, cela le reprenait. « La preuve indéniable, la preuve irréfutable, expliqua-t-il, que vous sortez bien d'un rendez-vous, c'est que vos bottines sont à demi reboutonnées, et vous avez été surpris en flagrant délit. Ou vous avez été surpris, hypothèse inadmissible, car une main de femme noie à loisir votre cravate. Ou alors votre ami appartient à une famille où l'on n'a point de tire-bouton. Une famille anglaise, par exemple. » J'affectais de sourire. Bon, une femme, insinuais-je, a des épingles à cheveux. Une épingle à cheveux remplace avantageusement un tire-bouton. Mais votre ami n'en a pas, laissa-t-il tomber. Vous direz peut-être que certaines femmes anglaises ont formé une ligue contre les épingles à cheveux. D'ailleurs, sans chercher si loin, les femmes qui portent perruques ne s'en servent pas. Je suis payé pour le savoir, ma femme en fait partie. Ah, fis-je. Il s'amusait évidemment à me torturer. De plus, l'imbécile m'avait placé dos à la fenêtre et il en venait un courant d'air qui me pénétrait jusqu'au moelle. J'éternuais. Et en tirant mon mouchoir, je fis tomber un os second mouchoir orné de dentelles. Et un peu plus grand qu'une feuille et un peu moins grand que ma main. Sherlock le posa sur la table et s'abîma à nouveau dans ses contemplations. C'est un mouchoir de femme, prononça-t-il enfin. Mais il sourit. Enfant, dit-il, mais vous vous laissez trahir par un mouchoir. Depuis Iago et Othello, ce genre d'accessoire n'appartient plus qu'à l'opérette. Mais je ne veux pas être indiscret. Me permettez-vous de l'examiner? Oh, vous pouvez, balbutiai-je bêtement, il est propre. Je sifflotais pour me donner une contenance, puis comme j'avais par cela même l'air d'en chercher une, je me tus. On aurait entendu voler les mouches. Mais les sales bêtes, intimidées, se gardaient bien. Alors mon cœur, quatrième vitesse, ronflait au milieu de ce silence comme un moteur. Sherlock but un doigt de Bordeaux, en rebut un grand second doigt et posa un des siens, l'index, sur le mouchoir. C'est la femme de quelqu'un qui se méfie et qui est malin. Il n'a pas d'initiale. Oh, j'avais de quoi soulager les deux grands verres d'eau. Je les avalai. Sherlock respira le mouchoir et l'approcha délicatement de son nez. Qu'est-ce qu'il sent? Demanda-t-il. Il sentait le Congo si affreusement qu'on ne pouvait pendre que pour du pigeon la bécassine faisandé de 15 jours qu'on nous servait. C'était en effet le soir de l'ouverture de la chasse. Ce qu'il sent, murmurai-je. Heureusement, Sherlock n'écoute pas ses interlocuteurs. Les questions que l'on lui pose sont les réponses qu'il se fait. Eh bien, pour moi, raisonna-t-il, il ne sent rien. C'est donc un parfum auquel je suis habitué. Oh oui, c'est du Congo, par exemple. C'est celui de ma femme. Ceux qui n'ont jamais été pris dans une machine à battre ou passé au laminoir ne pourront jamais concevoir quel étau broyait mon cœur. Je me penchais sur mon assiette et essayais de me trouver de l'appétit dans un de ces silences qui doublent la hauteur de la colonne d'air que supportent les épaules. Et Sherlock Holmes continuait à me fixer. Il y a un cheveu, dit-il. Je me penchais sur son assiette. Non, ce n'est pas un cheveu, dis-je. Du poireau, sans doute. Sans répondre, il se leva, allongea la main vers moi et me présenta, entre le pouce et l'index, après l'avoir recueilli sur le col de mon paletot, un fil doré, soyeux, souple, bref, un de ces cheveux qui font si bien sur l'épaule de l'amant. Quand toutefois la tête de l'aimé est au bout. Eh bien, dit-il, qu'est-ce que cela? Ben, ça, dis-je, d'un ton que j'aurais voulu indifférent, mais que malgré moi prenait des allures provocantes. Vous l'avez dit vous-même, cela c'est un cheveu. Il le posa sur la nappe blanche. Et je profitais des facilités que me donnait le courant d'air et la rêverie de mon bourreau pour diriger directement dans la direction du qui s'éleva, ondoya comme un serpent sur sa queue, sans pourtant l'infâme quitter la table. Rééternuer, commanda Sherlock Holmes, qui avait déjà évidemment compris mon manège. Oh, je la trouvais mauvaise. Si vous tenez à ce que j'éternue, lui répondis-je, mais éternuez vous-même. Il éternua, et le cheveu s'éleva, tournoya, enfin, voire plus haut. Mais c'est bien un cheveu de perruque, conclut-il. Je m'enflamme colle. Le cheveu était retombé au travers et nous séparait comme un cadavre. Il me paraissait plus long encore, mort que vivant. Sherlock vida son verre et en saisit comme d'une loupe, le saisit comme d'une loupe. Malgré mes efforts pour lui verser un chablis, d'ailleurs exécrable. Ben oui, c'est bien un cheveu de ma femme, dit-il. Je dissimulais ma terreur sous le voile d'un aimable badinage. Oui, eh bien, marivaudai-je, Madame Sherlock Holmes est jolie, vous me flattez. Il me regarda d'un air de commisération. Pauvre ami, fit-il, une Irlandaise qui a traîné dans tous les bars. Oh, la mort valait mieux que l'incertitude. Je n'aime pas mourir à petit feu, surtout en présence d'un garçon stupide qui nous écoute en nous servant. Alors je congédiai l'intrus dans les règles. Et vous, fis-je, en me levant et en fixant Sherlock, expliquez-vous. C'était prendre le taureau par les cornes. Mais j'aurais fait plus encore. Mon adversaire, d'ailleurs, ne sortit pas de son ironie déférente. En deux mots, dit-il, vous sortez d'un rendez-vous et vous vous troublez à ma vue. Donc, vous avez intérêt à ce que je ne connaisse pas celle qui vous prodigue ses faveurs. Vos bottines sont défaites. Donc, vous ne les avez pas reboutonnées. Ah oui, c'est le jour où ma bonne s'absente et laisse ma femme toute seule. Vous sortez un mouchoir qui n'appartient à ma femme. Je trouve sur votre épaule un cheveu de sa plus belle perruque. Donc, mes yeux ne firent qu'un tour. Le temps passait en vitesse inverse du battement de mon cœur. Donc, reprit Sherlock, qui me fixait toujours avec les yeux d'un boa qui va engloutir un bœuf. Donc, concluez vous-même. Je conclus en me renversant sur mon fauteuil et en paraissant fixement la crosse de mon revolver, en la caressant Oh, un excellent Browning, Lanscou. Mais quelle bêtise de jamais le charger. Donc, dit Sherlock Holmes froidement, avouez-le, mon pauvre ami, je vous en veux pas. Donc vous êtes l'ami de ma bonne. Garçon, criai-je, où diable vous cachez-vous? Il y a une heure que je vous appelle. Apportez du champagne!